la douche. Alors, cet exposé, tout d'abord, n'est pas consacré spécifiquement à la guerre de l'information, qui serait tronqué dans le programme, mais vous avez pu rectifier par vous-même, c'est guerre d'information et guerre informatique. En réalité, il s'agit d'un exposé visant à essayer de replacer la SSI dans ce que je pense être son véritable contexte, qui est celui d'une guerre. Donc, on va envisager ça de plusieurs points de vue. D'un point de vue historique, d'abord, alors ça va être un quart d'heure philosophique, et on a parlé de la décimale toute la matinée, donc je vais vous offrir une petite récréation. Ensuite, on va voir ça d'un point de vue technique. Alors, ça va aller assez vite, parce que hier, Philippe Volt m'a un peu passé la baraque, c'est-à-dire qu'un certain nombre de points amusants ont déjà été évoqués par lui de façon beaucoup bien meilleure que je ne saurais le faire, donc ça ira assez vite. Ensuite, on va évoquer ça d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire on fait la guerre, oui, pourquoi, comment. Et on va terminer par quelques éléments sur la construction des attaques, et ce que ça peut impliquer pour le défenseur sur une meilleure compréhension des attaques et donc une meilleure construction de la défense. Donc voilà, résumé brièvement ce que je vais essayer de vous raconter avant déjeuner. Alors tout d'abord, le quart d'heure philosophique a donc le contexte historique. Alors je vais emprunter un petit dessin. Hein. De tout temps, l'homme s'est fait la guerre, s'est tapé dessus, et les outils ont différé avec le temps. On a commencé avec la pierre, c'est passé au canon, au fer, tout ça. Puis alors comme vous voyez là, on arrive au calculateur. Alors, un peu plus sérieusement, il y a des gens qui ont ce métier, qui essayent d'analyser l'évolution de l'homme, l'histoire de l'humanité. Alors par exemple, le couple de Koppler a distingué dans ses travaux de manière très classique, trois aires, l'ère agraire, où le pouvoir appartient à celui qui possède la terre et les bons hommes, les bras pour la travailler ou pour faire la guerre. Deuxième ère qui s'est finie il y a quelque temps, l'ère industrielle, où le pouvoir va appartenir à ceux qui sont capables de produire en grande quantité des objets manufacturés, plus des bombes ou des chars, et donc avec les conséquences qu'on connaît. Et enfin, l'ère d'information qui est maintenant la nôtre. C'est le résultat de la révolution du silicium, c'est-à-dire depuis environ un demi-siècle, le développement de petits objets permettant de calculer, de stocker de l'information, de la traiter, de la communiquer en quantité énorme. Et ça a eu des conséquences assez considérables sur l'humanité. Alors en particulier, ici une autre vision, je passe rapidement dessus, juste pour signaler qu'il y a autant de visions que de bons hommes finalement sur ce point-là. Alors ça, c'est un polémologue dans les langues très belles qui distingue quatre âges, lui. Vous voyez, à l'ère des outils, de la machine, des systèmes, et âge de l'automatisation qui correspond sensiblement à l'ère de l'information selon les Toffler. Alors qu'est-ce que ça va impliquer, ça? Cette information qui est maintenant omniprésente, qui est le support de tous les processus de l'époque où nous vivons, cette information est traitée dans le cadre d'un dessin que vous devez reconnaître, puisqu'il traite aussi dans tous les bouquins, c'est la pyramide de la connaissance. Quand vous allez par exemple dans un supermarché, vous allez traiter l'information que vous recevez de vos yeux, vous voyez les prix des objets sur les rayons, en fonction de ce que vous voulez faire, vous allez prendre une décision et finir par choisir une boîte de beau, une boîte de persil, et le mettre dans votre caddie. Bon, ça c'est la version courte, ordinaire. Dans le cadre d'un processus d'ordre économique ou militaire, alors prenons un processus militaire, vous avez à essayer d'évaluer la situation sur le terrain à partir de tout un tas de capteurs, aussi bien dans le domaine radar, électromagnétique, image, pour avoir des bons hommes sur le terrain, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc à partir de données brutes issues de l'observation, vous allez les traiter pour obtenir des informations qui seront analysées, évaluées, pour arriver à comprendre finalement ce qui se passe. Et à partir de cette compréhension, vous allez essayer de prendre la meilleure décision possible et de l'exécuter, parce qu'il faudra ensuite transmettre les ordres qui vont bien aux acteurs sur le terrain. Alors ces acteurs peuvent être des bons hommes, peuvent être des machines, peuvent être tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que ça nous apporte l'évolution récente liée à la révolution du CICE que j'ai mentionné tout de suite? C'est que la quantité d'informations susceptibles d'être traitées, et donc l'exactitude des processus ainsi supportés, va augmenter de façon démesurée. On est maintenant capable de traiter des quantités absolument colossales d'informations, pour le mieux ou pour le pire, ça c'est une autre question, et ça va avoir certaines conséquences. Alors les conséquences, maintenant je vais les regarder d'un autre point de vue, du point de vue des gens qui font la guerre, des gens qui essayent d'évaluer, de comparer, de comprendre la façon dont l'homme a fait la guerre au cours des âges, et qui ont introduit la notion de révolution dans les affaires militaires, il y a un certain temps. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une révolution dans les affaires militaires? C'est l'introduction d'une nouvelle technologie qui va permettre à un État ou à un groupe d'individus de dominer ses voisins. Alors cette nouvelle technologie, il faut non seulement l'introduire, la maîtriser, mais il faut aussi savoir s'en servir. Donc il y a deux points fondamentaux, il y a la technologie et le mode d'emploi. Alors les trois principales révolutions dans les affaires militaires, d'après les spécialistes, dont je ne suis pas, ce sont d'une part, c'est l'introduction des armées de masse et puis des moyens mécaniques relativement standardisés. Alors, ça a commencé avec la Révolution française et puis ça s'est fini par les guerres mondiales du siècle passé. La deuxième révolution, c'est le changement complet d'arrêt du jeu. C'est l'introduction des armes nucléaires. Alors là, cette fois-ci, en principe, on fabrique des armes pour ne pas s'en servir. On voit la barre par la barre où je te tiens. Troisième révolution, c'est justement celle qui nous concerne, à savoir la révolution de l'information et l'émergence de ces méthodes de collecte et de traitement d'informations massives qui vont nous permettre de, comment dire, entre guillemets, bien travailler. On va en parler un peu plus loin. Alors, des RMA, on peut les envisager à des niveaux de granularité plus fines. Alors, par exemple, les spécialistes envisagent le Blitzkrieg 1940, le couple Char-Avion. Et d'ailleurs, c'est un exemple de ce que je viens de dire, à savoir qu'il ne suffit pas d'avoir la techno, il faut encore savoir s'en servir. Parce que du côté français, aussi bien que du côté allemand, il y avait des chars et des avions. Par contre, du côté allemand, ils avaient tous la radio, ils communiquaient entre eux, ils opéraient de façon conjointe. Du côté français, les chars étaient loin d'avoir tous la radio, et l'aviation vivait sa vie dans son coin. Donc ça a eu des résultats qu'on connaît. Un autre contre-exemple, plus loin dans le temps, si vous voulez, c'est la mitrailleuse. On apprend dans les livres d'histoire que les méchants allemands en 1870 haché les pauvres français avec des mitrailleuses, donc ces objets diaboliques. Il faut savoir qu'en 1870, les Français avaient aussi des mitrailleuses. Par contre, l'état-major, dans sa grande sagesse, l'avait considéré comme arme d'artillerie et donc déployé en retrait du front, là où ça ne servait à rien. Donc, il ne suffit pas d'avoir une techno, encore faut-il savoir s'en servir. Donc tout ça pour dire qu'on a actuellement un déploiement absolument massif d'objets permettant de traiter l'info, de la communiquer, de la stocker, enfin faire plein de choses merveilleuses, toute cette informatique qui nous environne, informatique au sens large, c'est-à-dire machine de traitement d'informations, réseau, tout ça. Eh bien, on l'a, bon, est-ce qu'on va être capable de s'en servir? Bon, pour notre bien, est-ce qu'on va être capable de se défendre contre d'éventuelles attaques portées par ces objets-là ou contre ces objets-là? Et c'est ça, justement, le challenge. Donc, voilà pour le quart d'heure philosophique, ça va? Bon. Maintenant, l'aspect technique. Alors, cette informatique constitue une espèce de système nerveux, finalement, du monde moderne. Alors, ce système nerveux recouvre, comme je l'ai dit, les réseaux, tout ce qui est système de traitement d'informations, satellites, tout ce qu'on peut imaginer, qui est représenté de façon très schématique sur cet écran-là, et qui est utilisé par un appareil militaire, ou politique, ou économique, qui est très mal représenté par les petites barres de droite. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence, ça, le fait que ce soit devenu le système nerveux du monde moderne, cette informatique? Eh bien, je vais prendre une analogie qui est celle des gaz neurotoxiques. Les êtres vivants sont sensibles à l'action de très petites quantités de produits qui inhibent le fonctionnement des cellules nerveuses. Donc là, l'analogie, ça va être qu'avec de petites actions ciblées sur certains des objets supports du monde moderne, donc ces systèmes informatiques, on va tout foutre par terre. Enfin, on espère, ou enfin, plutôt on espère que ça ne va pas arriver puisqu'on veut s'en défendre. Alors pourquoi? Alors je vais essayer de le dire, mais je vais passer très vite puisque vous avez déjà vu l'exposé de Philippe Wolff hier midi, donc qui reprend un certain nombre de... plutôt, qui est à peu près le même discours. Ici j'envisage un système d'école avec des liaisons filaires en très continu où le pointillé sont des liaisons hertziennes. Bon, pour connaître des réseaux de machines, un PABX ou des routeurs, des liaisons satellites, faisceaux hertziens, téléphone, tout ce qu'on veut, ça peut être vulnérable à des attaques de trois niveaux de gravité. Alors c'est une classement qui est complètement arbitraire, hein. On peut en imaginer des tas d'autres. C'est juste didactique, démonstratif. Alors, il y a tout d'abord l'écoute passive. On écoute tout ce qui passe. Alors, il est évident qu'avec un PC et une carte réseau, on se dit à peu près tout ce qui passe sur le réseau informatique classique. Ce phénomène a été aggravé par l'arrivée des réseaux sans fil et la faiblesse des protocoles pour le moment, surtout en l'absence de chiffrement sérieux. Sur les liaisons satellites faisceaux hertziens, bon, je vous renvoie, on parlera peut-être un peu plus loin, au rapport échelon, qui sont extrêmement intéressants de ce point de vue. Alors, il y a eu un premier rapport à caractère technique en 1999, le rapport STOA, et un deuxième en 2001 sur l'analyse des conséquences économiques et sur le plan de la vie privée des interceptions réalisées. Je passe sur Jean Théodique, un Dupont et Dupont, j'étais dans les albums de Tintin, vous avez vu ça, il y a très longtemps. L'intrusion, on a un deuxième stade dans la catastrophe. L'adversaire sait à peu près comment marche votre matériel, il connaît les protocoles, il connaît un petit peu l'OS de votre machine, il connaît un certain nombre de choses, mais il va être capable de rentrer dans votre système et qui se fait la perturbation. Alors bon, de là, les techniques de vol de session, en gros, il y en a des quantités, je passe là-dessus, tout ce qui est délit de service, portes dérobées. Alors un petit mot pour les portes dérobées. Pour moi, c'est une notion relativement large. Ça recouvre aussi bien des comptes administrateurs claqués en dur dans le disque pour permettre à une maintenance d'intervenir si l'administrateur a perdu son mot de passe. Et ça induit des vulnérabilités majeures, c'est-à-dire quelqu'un qui sera passé pour vous, ira pleurer auprès du constructeur en disant qu'il est en panne et tout, et récupérera ce qui lui permettra éventuellement de rentrer chez vous. Ça, c'est déjà vu. Ça peut être des fichiers qui contiennent des infos cachées. On en a parlé avec Philippe Lagadec il n'y a pas très longtemps. Ça peut être aussi tout ce qui est Eudpack. Bon, vous savez, tous les petits jeux que les développeurs s'amusent à laisser dans les logiciels. Alors, on dirait que ce n'est pas une menace. Si, c'est juste la démonstration de la faisabilité de l'inclusion de n'importe quoi dans un logiciel commercial. Quand vous achetez quelque chose, en fait, vous savez vraiment pas ce qu'il y a dedans. Donc en particulier, si un adversaire développe des logiciels qu'on pourrait qualifier d'offensifs, on va les vendre, les insérer dans tout ce que vous achetez éventuellement, et vous libérer du jeu. C'est juste une démonstration de faisabilité. Bon, alors, une mention pour tout ce qui est opération télémaintenance, que ce soit sur des PABI, que ce soit sur des routeurs, enfin tous les objets de type télécom à distance ont souvent été maintenus de manière peu sécurisée jusqu'à une époque assez récente. C'était, disons, une forme de sécurité par l'obscurité. Tout le monde croyait que personne n'irait regarder là-dedans, et en fait, si, les méchants peuvent aller regarder là-dedans. Bon, la situation s'améliore un peu, quoique ce qu'on a entendu hier sur BGP peut encore inquiéter. Alors, pour terminer, l'interception GSM est mise aussi dans l'intrusion, parce que ça revient à insérer dans le dialogue entre un émetteur et puis votre combiné un troisième larron avec sa station. La connexion sur les sans-fils, bien sûr. Prise de contrôle, troisième stade de la catastrophe. Alors cette fois-ci, l'adversaire sait exactement comment marche votre logiciel, il sait ce que vous faites avec, et il va rentrer dedans pour le pervertir et utiliser ça à son profit. Bon, alors avec tout ce qui est chevaux de Troie plus ou moins sophistiqués, et bon, qui peuvent être véhiculés par des virus, des choses comme ça. Le virus, on peut le voir aussi comme un objet militaire. C'est un engin autopropulsé avec une charge utile, et il a en fait une caractéristique supplémentaire que n'ont pas les bombes ou les missiles, c'est qu'il est capable de se reproduire quasiment à l'infini, ce qui est même très agréable. Ça réduit le budget de la défense. Et alors j'oublie pas, bien sûr, je l'ai mis en bas quand même pour mémoire, vol de matériel, vous voulez prendre le contrôle de quelque chose, vous allez le voler tout simplement. Tout juste pour signaler que les aspects physiques ou humains ne sont quand même pas négligés. En résumé, la catastrophe, c'est-à-dire que les supports, le système nerveux du monde moderne est vu très vulnérable du point de vue technique. Alors les petits cliparts, là, représentent diverses actions. Moi, à gauche, c'est social ingénierie, hein, baratiner une secrétaire pour lui extraire des infos, baratiner un administrateur système pour lui faire faire des bêtises, ça se pratique. Tout à fait en bas à droite, un petit processeur pour rappeler ce qu'avait mentionné Philippe hier, à savoir le flashage du BIOS. À savoir de répandre sur un réseau d'une entreprise le petit bout de code qui va effacer le BIOS d'une machine. Ça va avoir pour effet de l'empêcher de redémarrer. Vous direz que ce n'est pas très gênant, sauf que sur une machine moderne, c'est un circuit soudé sur la carte mère, et que si toutes les machines, ou beaucoup moins, sont attaquées de la sorte, à la veille d'une opération critique, ça peut être, je ne sais pas, un déploiement Yougoslavie pour des forces armées, ça peut être une opération boursière pour une grande entreprise, si toute l'informatique est par terre ce jour-là, ça peut être très gênant. Ça peut être mortel, en fait. Donc, le constat, je le laisse à un Américain assez connu, on construisait les maisons comme des calculateurs, le premier nom venu mettrait la civilisation par terre. C'est relativement vrai. Alors, troisième point, maintenant, c'est là que ça va m'amener à la guerre d'information. Je vais juste l'évoquer d'ailleurs, parce que ça permet peut-être de mieux situer un peu les SSI là-dedans. Alors qu'est-ce que c'est que la guerre d'information? Il y a une définition que j'aime bien, c'est celle de l'armée américaine, de l'armée de terre. Parce que chacun a sa définition, hein, et celle-là est relativement claire. C'est obtenir la supériorité dans le domaine de l'information en altérant l'information adverse, les processus qu'il utilise et les systèmes, en se protégeant évidemment contre le même genre de catastrophe. Alors il y a 5 ans de déclinaison de la guerre d'information. Alors n'ai pas du tout l'intention de faire un cours là-dessus. D'ailleurs, je rassure tout de suite le dernier intervenant d'hier soir, je ne suis pas cannibale et je n'ai pas l'intention de... Bon. Donc parmi toutes ces versions que je vais survoler rapidement quand même, pour essayer de voir ce qui est intéressant, bon, il y a la vision tout à fait universitaire du cours contre et par l'information, qui permet d'assez bien comprendre des choses. Pour l'information, c'est aller piquer de l'information, c'est du renseignement, la piquer physiquement en volant une machine, non pas pour sa valeur mais pour son disque dur, c'est intruser les réseaux. C'est faire du wardriving, c'est bon, tout un tas de choses du même genre, contre l'information. Alors, il s'agit cette fois-ci de protéger son information contre des agressions, ou alors d'aller détruire l'information de l'adversaire. Et enfin, on va, par l'information, on va l'utiliser. Alors, bon, c'est le domaine de l'action psychologique, c'est de la manipulation. Rapidement, l'édition américaine des gens de la RAND Corporation, le think tank de la RAND, animé en particulier par Attila Ehrenfeld, eux découpent ça en quatre morceaux, la guerre d'information. Ils rangent ça un peu par cible, c'est-à-dire ils visent la société, c'est network, pour essayer de contrôler la perception de la société pour l'amener à une direction donnée. Ils visent ses dirigeants par la guerre politique, pression sur le système politique, il y a la guerre économique, et enfin, il y a des opérations militaires, cyber warfare. Rich Warthog, qui était un peu contesté hier, et là, il est quand même intéressant cet individu, hein. C'est pas parce qu'il siffle toujours le même air que... Bon. Alors lui, a un découpage par, je dirais, taille de la cible, par gravité, si vous voulez, de l'entreprise de déstabilisation, d'agression envisagée. Alors, soit on attaque la personne avec toutes les agressions qui peuvent être réalisées contre une personne sur le plan financier ou tous les ennuis qui peuvent lui arriver, ou bien on attaque une entreprise de niveau 2, espionnage, sabotage, destruction, vol, débouchage, tout ce qu'on veut, ou bien on attaque l'État, niveau 3, et là il reprend le découpage des gens de la rente, à savoir network, guerre économique, politique ou cyber. Alors maintenant, une vision que j'aime beaucoup, c'est celle de Libicki. C'est celle qu'il a introduite en 1995 dans son papier OAS Information Warfare. Lui, il découpe ça en 7 morceaux avec une parabole aussi que j'aime bien, celle de l'éléphant vu par un aveugle. Vous avez un aveugle qui arrive dans un zoo et qui, en tâtant, trouve un éléphant. Et alors, suivant le bout par lequel il découvre l'animal, s'il s'y tape des pattes, il va penser que c'est un arbre, s'il attrape la trompe, il va penser qu'une liane, et ainsi de suite. Donc, l'idée des Wikis, c'est la guerre d'information, qu'est-ce que c'est? Et chacun, vu de sa fenêtre, en a une perception particulière. Et cette perception, lui, il va essayer justement d'utiliser pour classer ça, alors à nouveau par cible, à savoir qu'il distingue dans ces 7 formes de guerre la guerre du commandant de contrôle, donc où il va attaquer les centres et les liaisons de l'adversaire. C'est une attaque qui peut être physique, informatique, tout ce qu'on veut. Hein, c'est, pour faire un bref saut en arrière historique, si vous regardez par exemple les Mongols de Gengis Khan, ils utilisaient des archers à cheval aussi bien pour assurer leur communication que pour tuer, intercepter les communications d'adversaires. C'était de la guerre du commandement de contrôle déjà à l'époque. Bon, la guerre basée sur le renseignement. Alors il s'agit ici d'optimiser au mieux les capteurs, l'usage qu'un effet. À savoir, avec tout un tas de capteurs humains, physiques, électromagnétiques, tout ce qu'on veut, essayer d'avoir une image du champ de bataille, alors militaire ou économique, hein, peu importe, pour comprendre le plus vite possible ce qui se passe et prendre les bonnes décisions. De façon à accélérer le cycle de décision et prendre l'adversaire de vitesse. Bon, la guerre électronique, bon, c'est un domaine particulier, les gens des SAD pourront en parler abondamment. Là, on s'intéresse au monde des communications et des signaux. La guerre psychologique, bon, ça remonte à la nuit des temps. La guerre économique, on en a déjà parlé, elle est aussi présente là. Et enfin, deux déclinaisons de la guerre informatique, Hacker War et Cyber War, que, bon, qu'à mon sens, j'aurais tendance à confondre. Mais Hacker War, il s'agit des niveaux essentiellement physiques et syntaxiques, ce qui correspond à essayer de comprendre grosso modo comment et manipuler l'information, on ne sait pas à quoi elle sert. Et le niveau sémantique au-dessus, on sait à quoi elle sert, on va la manipuler, l'utiliser à notre profit. Et un peu plus tard, Libicki a introduit la notion de information dominance, où il va intégrer trois composants. L'information warfare qu'on vient de voir, où il s'agit donc d'orchestrer des attaques plus assidues sur l'ennemi, et puis qui va être précédé du renseignement, parce qu'il va falloir savoir qui est l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait, où est-il, et du command and control pour arriver à conduire les opérations. C'est ce que nous sommes. nous faisons. Alors, vision suivante, toujours sur la notion de supériorité dans le domaine de l'information, c'est celle qui est due à Albert Sebrowski et sa bande. Alors, il définit la notion de supériorité dans le domaine de l'information, c'est une transparente que vous avez donnée, sur trois axes, c'est-à-dire la pertinence de l'information, la fraîcheur de l'information et l'exactitude de l'information. Bon, si vous avez le plus gros par les pipettes possible, vous êtes meilleur que l'adversaire. Et le but, c'est d'y arriver de manière à, alors, les à droite, surprenant la terminologie de Clausewitz, c'est réduire le brouillard et la friction de la guerre. Et le brouillard, vous ne savez pas où l'adversaire, vous essayez de comprendre où il est, ce qu'il fait, donc percer le brouillard, et puis ensuite, quand vous avez vu ce qu'il fait, compris ce qu'il fait, et que vous prenez vos décisions, il faut les faire appliquer. Et c'est là, effectivement, qu'il y a beaucoup de friction, que ça a beaucoup de mal à se faire. Et tous les réseaux informatiques, dont j'ai parlé tout à l'heure, tout ce système nerveux du monde moderne va vous aider à faire ça beaucoup plus vite en réseau. Et c'est donc toute la base du network centric warfare sur lequel je ne m'étendrai pas parce qu'on peut en faire un exposé complet là-dessus. Pour terminer, juste une mention d'une chose assez intéressante aussi, pour ceux qui croient encore au Père Noël, la vision chinoise, qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, ça fait un an ou deux, dans un bouquin appelé Unrespected Warfare. Alors, eux envisagent un champ de bataille sans limite, c'est-à-dire pour eux, la guerre, elle est partout, totale. Alors, il y a comme trois niveaux, grosso modo, il y a la guerre militaire, bon, aussi étrange que ça puisse paraître, avec guerre nucléaire, conventionnelle, guerre de l'espace, guerre éveille, tout ce que... guérilla et terrorisme aussi. Il y a la guerre au-delà du militaire, alors les actions diplomatiques, la guerre psychologique, le trafic de drogue chez les gens qu'on n'aime pas, la contrebande, enfin, tout ce qu'on peut faire pour ennuyer délicatement ses adversaires, et la guerre non militaire, qui recouvre des actions de tous ordres, financières, manipulation des ressources naturelles, ça peut détourner des cours d'eau qui iraient autrement chez l'adversaire, jouer sur des sanctions économiques, tout ce qui est manipulation idéologique, enfin c'est la totale. Donc juste pour vous dire, c'est l'Alas, c'est un nom impitoyable. Voilà, donc ça va toujours. Alors qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça maintenant? Alors ces visions sont extrêmement complexes et ça recouvre une réalité multiforme. Alors je vous ai dit tout à l'heure que j'allais essayer d'en tirer quelque chose pour mon problème à moi, qui est celui de répandre les systèmes informatiques. Comment essayer de comprendre la guerre d'information? Alors qu'est-ce que je vais en comprendre? C'est qu'un dénominateur commun quand même là-dedans. Bon, je ne parle pas hexadécimal comme tout le monde dans la salle, mais donc, j'ai quand même compris qu'il y avait le silicium qui est le dénominateur commun. Et alors je vais donc découper le monde en couches, c'est pas de l'ISO tout à fait, c'est beaucoup plus simple. En bas, je vais mettre le monde physique, avec tout ce qui est mécanique, électromagnétique, tout ce qui est relativement bas niveau. Au-dessus, je vais mettre le monde de l'information structurée, qui est manipulé en particulier à beaucoup d'étages de la petite ISO par... les systèmes informatiques, et tout en haut, ce qui est le monde humain. Alors j'ai mis là idée, monde psychologique, mais c'est un peu plus, ça peut être l'économie, ça peut être la finance, ça peut être toute la structuration de la société qui est réalisée par l'homme. Et je vais donc considérer ces couches du monde comme à la fois des cibles d'attaque ou des moyens d'action. Et je vais donc prendre l'action de moyens informatiques contre toutes les couches du monde, ou contre l'action de tous les moyens possibles contre des objets informatiques. Et c'est ça qui risque d'être justement la guerre informatique. Alors, illustration par des petits cliparts de chez M. Micromou. Le petit paquet de dynamite pour dire qu'on peut tout simplement pétarder une salle de calcul ou couper des liaisons d'une manière tout à fait physique. Cette espèce de l'éclair, là, pour rappeler qu'il n'y a pas que l'impulsion électromagnétique issue d'une explosion nucléaire à haute altitude qui peut désemparer des circuits électroniques. Apparemment, des gens travaillent, et il y a eu pas mal de publics sur le net, sur la génération de l'IEM local pour griller des circuits, avec du matériel à relativement bas prix. Le cœur du métier, alors ça, c'est quand même... On est dans le cœur du sujet, l'action de moyens informatiques sur des cibles informatiques, mais ça suppose une hypothèse forte, c'est que la connexion. Vous êtes online, vous êtes connecté à une machine, et puis ben, toutes les actions possibles et imaginables pour lui nuire. L'action psychologique. Vous allez baratiner l'administrateur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, dans la ligne verticale, l'action de moyens informatiques sur des cibles psychologiques. Là, ça va être l'utilisation, par exemple, de forums internet pour manipuler les gens. Alors, typiquement, ce qu'avait fait Boeing à une époque en fer russe, pour faire un peu de propagande, ou bien des manipulations de cours de bourse aux États-Unis, pour lesquelles des gens ont été condamnés il y a quelque temps. Et en bas, ce qui est probablement le plus grave, à savoir l'action sur le monde physique. Alors, il ne s'agit pas bien sûr des actions directes, mais il va s'agir de l'action contre des calculateurs qui contrôlent les objets du monde physique. Ça peut être des contrôles commandes dans la centrale nucléaire, ça peut être des dispatching EDF ou ferroviaire, ça peut être du contrôle aérien, ça peut être un système bancaire, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer. Mais la cible est dans le monde réel physique et c'est là que ça va faire mal. Donc la guerre informatique, c'est en fait cette croix verte, hein, croix verte, pharmacie, danger, vous voyez ensuite la liaison. Et l'évolution qui va se dessiner, ça va être celle de ce qui se passe actuellement encore, qui sont des actions isolées, avec des moyens informatiques assez simples, sur des cibles online, c'est donc ce qui est défaçage de sites, agressions diverses et variées, vers quoi? Ben justement ce qui pourrait être le cyberterrorisme. Donc, je suis désolé d'emboucher dans la même trompette que Washwartau, mais je ne peux pas me retenir. Ces actions coordonnées vont faire appel à tous les moyens pour obtenir des résultats assez forts sur des cibles précises. Alors quand je dis tous les moyens, si je reviens en arrière, là, ça veut dire que je vais envisager la possibilité de combiner des actions physiques, psychologiques, informatiques, et c'est cette combinaison qui va être redoutable. Il ne faut absolument pas se limiter à l'analyse de la petite, la petite patate du milieu et de la machine malade. Tout le reste fait partie du jeu. C'est ça qui va être gênant. Donc ce cyberterrorisme a certaines caractéristiques quand même, ça coûte pas cher, donc prolifération, ça va vite, il y a un effet domino certain, mais ce qui induit des effets de bord peu faciles à maîtriser, et par contre c'est difficile à détecter et imputer, donc ça en fait effectivement une arme assez forte pour des terroristes. Deux petites planches que j'ai extraites d'un document américain de doctrine sur la guerre d'information. Sur les menaces pour les systèmes d'information, alors vous observerez qu'il y a un peu de tout dedans. Vous avez les terroristes, le crime organisé, les utilisateurs normaux du système, les hackers, l'industrie et puis les pays étrangers, beaucoup de monde. Les cibles maintenant. Là aussi, vous voyez que dans la vision américaine, on trouve pas mal de choses. Ça correspond d'une part, bien sûr, à l'infrastructure militaire, au système d'armes, mais aussi à tout ce qui est leadership civil et les fameuses infrastructures critiques qui ont été brièvement évoquées hier soir. Alors, ici, autre planche volée chez eux, pour les décrire, c'est tout ce qui permet finalement à la nation de fonctionner. Et c'est ça qui risque d'être attaqué. Non pas directement, bien sûr, mais par le biais des systèmes qui les contrôlent. Alors, conséquence, c'est le débat justement qui était un peu ouvert, à savoir, est-ce qu'on risque ou pas le perlargoir électronique? Alors ça, c'est la question à 100 balles. Et actuellement, je ne pense pas que le problème soit très près d'être résolu. Il y a quand même un danger assez important, je pense. Danger qui vient du fait que si on se focalise sur la pure menace informatique, on passe à côté du vrai problème. Je vais revenir un peu plus loin. Enfin, il y a eu un certain nombre de jeux, de simulations organisées par les équipes de la RAND depuis 1995, visant d'essayer de cerner les conséquences de l'agression informatique sur tout un tas d'objets du monde réel, avec conséquences diverses. Bon, il est vrai que certains de ces jeux étaient organisés avec une arrière-pensée d'obtenir les budgets qui allaient bien pour, etc., etc. Mais il ne faut pas non plus voir que ça, et alors, il faut quand même reconnaître qu'il y a un problème latent. Alors, petit transparent sur la démarche US, qui est assez structurée depuis un certain temps. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Dans les années 90, ils ont eu pas mal d'attaques sur leur système. Les systèmes gouvernementaux utilisent énormément le net. Et jusque vers 95, certaines attaques assez sérieuses ont eu lieu, qui ont fini par donner lieu à une enquête, un rapport du GAO en 96. C'est un papier qui est maintenant assez connu, on trouve, qui traite partout. Ça y est, il arrive. Bon, je ne vais pas le détailler, mais enfin, il y a une lecture assez intéressante. Et qu'il y a eu après, création de commissions techniques diverses, Defense Science Board pour réfléchir au problème, des travaux d'études menés par la National Defense University, pas mal de travaux de la RAND. Et d'un point de vue pratique, ça donnait quoi? Alors, sur le plan défensif, création d'une commission présidentielle pour la protection des infrastructures critiques telles que je les ai définies. Il y a eu la fameuse décision présidentielle, le COVID-63, création d'une agence ad hoc, la DISA, création d'un centre qui avait pour vocation d'essayer de gérer un état de l'art des vulnérabilités, le CIPC, qui édite tous les 15 jours Cyber Issues, qui est une excellente lecture pour les administrateurs, création d'une certaine forme de sécurisation des réseaux civils et militaires. En 2001, je ne sais plus, un plan pour la protection des systèmes d'information des nations, Alors, est-ce que c'est un peu plus grand? Un peu plus. Bon, enfin, ça revenait à identifier un certain nombre de programmes principaux. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire. De toute façon, ça traîne sur le net, ça c'est très facile d'accès. Donc définir tout ce qui est lié aux infrastructures critiques, quel type d'attaque, comment les détecter, comment y parer, comment y préparer la nation américaine, c'est-à-dire avec des mesures liées à l'éducation, à la sensibilisation, bon, et des budgets plus grands. Bon, plus récemment, il y a eu un papier qui est sorti il y a très peu de temps, qui s'appelle Secure Cyberspace, qui visait à essayer donc de protéger l'économie américaine en reportant une partie de la charge justement sur les entreprises, en structurant cet effort. Sur le plan militaire, par contre, la notion de guerre d'information et dans sa déclinaison de guerre informatique est très peu apparente dans le film Manuel 106, mais est apparue explicitement sous les vocables CNA et CND, Computer Network Attack et Computer Network Defense, dans les documents à partir de 1998, la Joint Plus 313 et un document d'Air Force. Et puis, on peut aussi mentionner au passage, ça n'est pas véritablement un aspect offensif au sens guerrier, tel que j'en parle, mais tout ce qui a des conséquences dans le domaine civil, à savoir le système d'interception. Carnivore, c'est l'interception sur le net, le développement de tout un tas d'utilitaires, les keylogger dont on parle, ce ne sont pas des bêtes de laboratoire. Il y a des firmes qui vendent des objets comme Ghost, vous achetez ça sur le net, ce sont des objets qui fonctionnent très bien, qui sont documentés, supportés. En allant un peu plus loin, vous avez des objets comme celui-là, donc il a été aussi question sur le net, Dirt, c'est en principe un produit, alors ça a été assez controversé cette chose-là, c'est un cheval de Troie instrumenté, c'est-à-dire au lieu d'avoir un cheval de Troie manipulable par des spécialistes, c'est un logiciel utilisable très simplement par le type lambda, par le détective lambda, pour aller infecter la machine d'une cible et récupérer de l'information par des méthodes assez habituelles. Et bon, si vous avez un très joli mot de tempoueur. Bon, la personnalité des dirigeants de Codex est assez controversée. Cet exemple, c'est juste pour vous montrer que ça n'est pas que de la science-fiction. Il y a un début de concrétisation de ce genre d'outils. Alors, comme le temps passe, je vais quand même me cheminer un petit peu vers la fin de mon discours. Alors, cette action, cette guerre à caractère informatique, elle n'est pas si simple que ça. Je vais quand même tempérer beaucoup ce que j'ai dit là quand j'ai dit que j'allais rajouter la même trompette que je recorde. En particulier, Carlo Kopp a mentionné tout un tas de problèmes liés à ça. Les facteurs humains d'abord. En réalité, c'est pas simple, et les élites sont relativement incultes d'un point de vue informatique. Donc, les politiques en particulier, donc il y a des choses qui ne passent pas bien comme message. Sur le développement, les conséquences de ce genre d'action. Les problèmes légaux. Alors, ça pose aussi énormément de problèmes légaux, les actions informatiques. La législation n'est pas encore bien finalisée sur le sujet. D'un point de vue militaire, règles d'engagement, évaluation des dommages, des effets collatéraux, ça aussi, c'est quelque chose qui pose d'énormes problèmes. Ce n'est pas bien cerné du tout. Vous êtes agressé informatiquement par une nation voisine, qu'est-ce que vous faites pour vous défendre? Vous lancez une attaque informatique contre eux, ou vous lancez une action aérienne? Enfin, ce sont deux domaines très différents, mais qui tous les deux peuvent avoir des incidences catastrophiques sur votre nation, sur votre entreprise. Structuration des forces, c'est-à-dire qui doit éventuellement mener des actions informatiques dans l'armée d'une nation, ça c'est aussi un vaste problème. L'évolution technique, ben, c'est toujours la course de l'épée contre les cuirasses, hein, c'est assez difficile de suivre l'évolution du progrès. Puis alors, il y a un petit truc en italique que j'ai rajouté qui est propre à cet aspect informatique, c'est aléa et constante de temps. Dans la mesure où vous allez utiliser des actions dans le domaine informatique, donc utilisant des routeurs, utilisant des machines qui ont certaines versions officielles, qui sont connectées, qui ne seront pas connectées, en réalité vous allez dans un domaine très mouvant qui change très rapidement. Donc imaginez de conduire des actions structurées là-dedans, ça a un côté patinage artistique, hein, c'est pas forcément simple. Alors la constante de temps, c'est tout simplement le fait que, par comparaison avec des actions de guerre classique, terrestre ou autre, avec l'unité de temps, c'est la semaine, le mois, la rigueur de la journée, là, l'unité de temps, ça peut être la seconde, la fraction de seconde, ce qui complique aussi terriblement les choses pour l'agresseur. Alors maintenant, je vais quand même arriver au but du discours, qui est de se demander comment se protéger contre ce genre d'horreur, sachant que ces horreurs recouvrent donc des combinaisons d'actions non seulement informatiques, mais aussi psychologiques et physiques. Alors, j'ai donc dit que le jeu s'est grandement démocratisé et les acteurs ne sont plus simplement des États dans ce type d'agression, et ça peut être des multinationales, des terroristes, de simples individus pour des motivations tout à fait diverses. Alors, pour aller un peu plus loin, je suis désolé, je vous inflige un petit rappel de cours sur l'analyse de risque. Bon, on va faire ça très vite. Insistant, face à un hostile, il y a une valeur pour vous, donc ça en fait un objectif pour l'hostile. Ce qui donnera à l'hostile la volonté d'agresser, moyennant certaines limitations du point de vue prise de risque et discrétion. Le système a des vulnérabilités qui rendent permettant justement à l'hostile, qui lui donneront la capacité d'agresser, pourvu qu'il en ait la connaissance, qu'il retourne ses outils. Et qu'il a évidemment accès au système, donc ça c'est le truc à ne pas oublier quand même. Et s'il en a le temps, eh bien, maître, peut-il le faire? Oui, il va le faire. Donc la menace, c'est un objet à trois composantes, la valeur du système, la vulnérabilité qui sera exploitée, et puis la menace avec une espèce de probabilité de réalisation de la chose. Donc ce sont les trois composantes du risque. Pardon. Alors qu'est-ce que je vais en déduire de ça, moi, si je vais essayer d'analyser le risque qui pèse sur mon système? Je vais me poser trois questions. Quelle est la cible? Quel est l'agresseur? Et quelle attaque risquais-je de rencontrer? Alors pourquoi je me pose ces questions-là? Parce que ce que j'ai oublié de dire au départ, c'est que la vie de RSSI ou de SI, enfin de la personne qui est supposée défendre un système, ça s'apparente certains jours au désert des Tartares. À savoir qu'il faut garder un système en ne sachant pas par quel bout il va être attaqué ni quand, ni comment. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est ce que je propose là, c'est une démarche. Loin d'être le seul à proposer, mais c'est de retourner la situation, de se placer dans la posture de l'attaquant, de se demander comment diable on peut attaquer sous du système, pour essayer de mettre les ressources de la défense là où il est le plus probable qu'elles auront à travailler. Donc, alors, quelle cible? Ben, aussi bien les cibles finales, bien sûr, qui sont visées, soit démolir un système militaire, détourner des ressources financières, ou tout ce qu'on veut, où elles sont hébergées logiquement, matériellement, physiquement, dans tous les aspects de la cible. Et pourquoi je vous ai infligé ce petit rappel de cours sur le risque? C'est pour introduire la notion de profil de l'attaquant. Avec un certain nombre de... Vous avez un certain nombre d'adversaires, ça va être à vous d'essayer d'imaginer qui sont les grands méchants loups qui vont vous vouloir du mal. Ces gens-là vont avoir un certain profil, certains objectifs stratégiques. Ils auront certaines informations, certains moyens. Ont-ils ou pas le temps? Est-ce qu'ils auront besoin de discrétion? En ont-ils certains risques? Le reste va en découler assez naturellement. Bon, ici, il y a des petits exemples de profils qui sont totalement pipeaux. Hein. C'est juste pour faire des petits diagrammes à barre, ça fait joli. Mais bon, de hacker, d'administrateur de réseau, d'agence gouvernementale, de vandale, de tout ce qu'on veut. Et en face de ça, on peut mettre un certain nombre d'attaques classiques et voir les ressources que ça requiert, un niveau de ressources. Bien évidemment, c'est une simplification abusive du problème. Mais il faut bien tenter de l'aborder. Et pour construire cette attaque, on va pouvoir essayer d'imaginer la progression de l'hostile le plus vraisemblable avec les moyens, le profil qu'il a dans le système. Alors, comment construire l'attaque maintenant? Alors, on peut essayer de modéliser le système comme une espèce de graphe. Alors là, je demande tout de suite l'indulgence de la Cour, ainsi que les circonstances atténuantes, parce que à la base, je ne suis pas un serviteur du milieu informatique, mais un serviteur du milieu mathématique. Donc, j'ai une vision spéciale des choses. J'essaye de tout mettre en forme de boîte, de graphe, tout ce qu'on veut. Donc ce système, on va le représenter comme un petit graphe, au cœur duquel va se trouver le trésor que vous êtes supposé protéger, et puis la question c'est ben, par où diable l'hostile va-t-il rentrer, et comment va-t-il progresser pour arriver au but? Ce qui va amener la notion de chemin d'attaque. Comment donc rentrer au mieux et dégommer le plus rapidement possible le système? Ce qui revient d'ailleurs à poser une hypothèse forte qui est celle de l'intelligence de l'adversaire. Elle n'est pas totalement idiote en plus, hypothèse. Alors, une méthode d'analyse, il y en a pas mal. Il y en a qui se tombent relativement sous le sens. Une a été introduite il y a quelques années par Schneier, avec sa construction des arbres d'attaque. En réalité, pour ceux qui ont pratiqué la recherche opérationnelle, c'est pas une innovation. C'est une méthode de séparation et d'évaluation classique, un punch and bound. Vous allez construire une fonction de séparation et une fonction d'évaluation ensuite de chacune des branches du problème que vous aurez élaboré. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer le système qu'on cherche à protéger en sous-systèmes dans l'espace et dans le temps, suivant les étapes du cycle de vie. On va se demander, mon système, comment ou peut-il être attaqué? À quel moment du cycle de vie et quelle composante du système craint quelque chose? On va donc construire un arbre dont on va ensuite évaluer les feuilles. Alors, évaluer les feuilles, bah, suivant ce que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir les composantes du risque, hein, risque accès, coût pour l'adversaire, moyen nécessaire, tout ça, de manière à avoir une valuation, ce qui va permettre de classer les objectifs en fonction de ça. Et une fois qu'on aura défini quelles sont les feuilles qui craignent le plus, c'est-à-dire quelle partie du système, à quelle étape de son cycle de vie, on va se demander plus précisément, cette feuille-là, comment l'adversaire va-t-il vraiment l'attaquer ? Et il va donc construire à ce moment-là le chemin d'attaque qui mène à cette feuille. Et c'est là que je reviens au petit crevard de tout à l'heure. Vous vous rappelez la croix verte. Ici, je vais envisager non seulement des attaques purement informatiques, mais aussi l'usage des composantes de manière combinée, physique et psychologique. Alors, c'est illustré sur ce dessin tout à fait scolaire, où action élémentaire 1, je vais circonvenir M. Dupont, hein, petit chanteur, je ne sais pas quoi, pour qu'il rentre dans le bâtiment C de son entreprise, action élémentaire 2, qui est physique, qui se connecte à son ordinateur, action élémentaire 3, et qu'il accède au réseau d'entreprise, action élémentaire 4, pour y faire quelque chose. Donc il y a ici combinaison d'actions du monde dans les trois couches. Les actions élémentaires étant prises dans les couches que j'évoquais, hein, physique, informatique, humaine. Alors, ici, un petit extrait d'une vision américaine de la chose, où ils envisagent des tas d'actions élémentaires dans tous les domaines. D'ailleurs, certains relèvent presque de la science-fiction. Mais pas tous. Alors, ce type d'approche n'est pas non plus complètement nouveau. Des gens comme Cohen, ont commencé à essayer de modéliser la progression dans des systèmes en essayant de lister des mécanismes d'attaque, des profils de menace, des mécanismes de protection pour représenter la progression dans un système. Bon, ce qu'ils avaient fait, à ma connaissance, est relativement limité dans la mesure où la façon de progresser, ça s'apparentait davantage à un jeu de rôle, vous savez, un chevalier, des points de vie, des armes et tout ça, il franchit des portes suivant ce disco, c'est un peu à ça qu'on joue. Le dessin que j'ai représenté tout à l'heure avec mon graphe dans lequel je progresse, c'est ça. J'ai des portes que je dois franchir, chacune des portes nécessite certaines connaissances, certains outils, certains moyens, je les ai ou je les ai pas et j'avance, ou je reste bloqué. Alors, on peut représenter ça sur un exemple, là encore, tout à fait bête, hein, cet exemple ridiculement simpliste. J'ai mon Donald qui veut rentrer dans un local technique où se trouve une machine qui l'intéresse. Il va essayer de s'attaquer d'abord au digicode, mais ça, il ne sait pas faire. Donc, il va attaquer la serrure, vu le bureau d'à côté, se connecter à la machine, et au travers du hub et du switch, arriver à la machine visée. Il a gagné. Bon, je sais, c'est simpliste. Alors, voilà un modèle en couche de la même chose. Alors, dans ce modèle-là, j'ai pas trois couches, comme je l'ai évoqué tout à l'heure dans le monde, il y en avait quatre dans cette petite épée. Il y a physique, protocolaire, logique et psychologique. La couche informatique avait été découpée en deux pour je ne sais plus quelle raison. Et on va représenter la progression dans le système par rentrer sur le pointeur. Il arrive dans le bâtiment. Peut-il attaquer physiquement le digicode? Il n'y arrive pas. Donc il va attaquer la serrure, qui sur le plan physique lui permet de pénétrer dans le bureau. Toujours sur le plan physique, vous voyez cette espèce de couloir qui relie, on peut voir ça comme des cages d'escalier, et ça comme des couloirs dans la barre d'immeuble, enfin c'est une espèce de labyrinthe qu'on a construit là finalement. Donc dans la couche physique au bureau, il accède au PC. Il se met à travailler dessus, donc là il descend dans la couche protocolaire ou logique. Couche qu'il va utiliser pour arriver au hub, au switch, et pouf, il a gagné, il est dans le serveur. Donc ce type de modélisation peut être intéressant pour essayer de représenter un système complexe. Alors on peut utiliser, bon, la question centrale, c'est quel type de modélisation utiliser. Bon, on a fait une expérience avec des réseaux de Petri, hein, des temps reculés, et plus récemment, donc, on a essayé de développer, mais d'autres le font aussi, une tentative de simulateur de système pour essayer de comprendre ce qui se passe dans un système informatique. Alors, je vais prévenir tout de suite les questions et les remarques, parce que sinon, c'est qu'on va me dire, mais oui, mais on n'est pas capable de tout simuler, de représenter, c'est évident. Et la vraie question, d'ailleurs, de ce type d'approche, c'est quelle régularité et quelle exactitude. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans un système informatique, l'écueil est le plus souvent la complexité. On ne va pas s'intéresser à la chute du troisième pont à gauche tout ce dont on a parlé ce matin. On va s'intéresser à la propagation d'effets d'avalanche dans un système. C'est-à-dire, comme il y a eu l'écroulement de Transpac un certain mois de juillet, il y a pas mal d'années, comme on peut essayer d'écrouler un réseau de machines, on se demande si, par une action ciblée sur un un endroit du système, on ne va pas faire tomber l'ensemble. Et comment va se propager une attaque dans le système? Et c'est à ça que peut éventuellement répondre le type d'approche. Donc, et j'arrive à la conclusion, vous rassurez tout de suite, on va être dans les temps, vous allez avoir votre déjeuner. Le grand risque de la guerre informatique, à mon sens, c'est justement celui d'avoir à faire face à des actions coordonnées de façon complètement militaire par un adversaire, qui soit étatique ou qui ne le soit pas, qui va enchaîner des actions de type renseignement, c'est-à-dire cartographie de votre système, pour construire un modèle, pour comprendre comment il est fait et mieux progresser dedans. Donc, c'est ce qui va l'amener à des opérations de planification, préparation de son agression, alors avec plusieurs étapes, ou même des tas d'étapes, ce que j'ai représenté de manière très schématique avec mon Donald, qui a tourné son digicode, mais en faisant appel à des opérations de type humain. Ça peut être beaucoup moins cher de corrompre une secrétaire, ça peut être beaucoup plus simple de casser le serveur. Enfin, prendre un exemple très bête, si vous voulez agresser un réseau qui est sur le plan informatique extrêmement bien protégé, il peut être tellement plus simple de projeter la serrure d'une armoire de brassage et puis d'aller mettre des pinces micro. Alors bien sûr, à ce moment-là, le RSSI dit « Ah, c'est pas de jeu ». D'accord, mais il faut toujours rappeler que pour l'adversaire, tous les coups sont permis. Alors, puis on en arrive à la conclusion, comment se défendre, mais finalement, c'est la définition de la SSI, elle est composée en défense active, c'est-à-dire prévenir, détecter, réagir, bon, c'est tout à fait classique. Et la défense passive, qui est, je dirais, la langue de bois, la méthodologie, comment obtenir une certaine assurance sur le système, mais je dirais que je sors du sujet finalement. Parce que le but du jeu, c'était d'essayer de vous sensibiliser à une approche type attaquant au problème de la SSI. Et approche de type attaquant placée justement dans un contexte de guerre. Voilà, je vous remercie de m'avoir supporté. Et il y a la défense active qui consiste à la guerre de mouvement, finalement, c'est se dire si j'étais l'attaquant, je ferais quoi? Sachant que j'ai un budget limité, je ne peux pas me protéger contre tout, donc je vais essayer de déterminer quels sont les points les plus vulnérables. Alors je fais l'hypothèse que l'attaquant va être intelligent et qu'il va essayer de m'infliger le maximum de dégâts. Après, je me mets à sa place, je sors du château fort, je regarde de dehors et je me dis bon, je ferai comment maintenant?
Cette image, vraiment, tout le monde connaît l'imagino, donc elle a vraiment un impact, je pense, sur la.
Oui, mais je peux vous dire que la mission d'évangélisation des peuplades primitives et laborieuses de la SSI est quand même une tâche tout à fait solennelle.
Oui. Oui. Bonjour, je m'occupe de la sécurité des systèmes d'information et il y a un certain nombre de questions qu'on se pose. Hein. Le discours, je l'aime bien, il est dans l'air depuis un certain temps quand même. Hein. La première question, c'est. Quelle est la part d'intoxication des Américains? Parce que tous ces documents sont sur le web. Et ce n'est pas mis sur le web par hasard non plus. Nous n'allons pas perdre à des naïfs, je crois pas. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, dans le milieu qui est le mien, on sait que les terroristes sont généralement des gens qui sont bien formés. Hein, c'est pas des, donc, notre milieu est un milieu propice à l'émergence de vocations de ce type-là. Et quand on regarde les choses, d'un peu près, on voit bien bon, la propagande, on voit bien un certain nombre de choses comme ça, mais on ne voit pas d'actes, de réalité, cyberterroriste. Et je me demande si, quelque part, quand même, on n'oublie pas une dimension. C'est-à-dire que, tant qu'il n'y a pas la conjugaison de plusieurs facteurs, c'est-à-dire que le cyberterrorisme ne pourrait être un danger conjugué à d'autres facteurs, par exemple l'appui de l'État étranger.
Oui, tout à fait. Hein?
On voit bien, par exemple, que les moyens qui sont à mettre en œuvre pour faire du cyberterrorisme ne sont pas à l'échelle d'un groupe, d'un individu, et probablement pas d'un groupe, mais plutôt à l'échelle d'un, plus d'un État. Et que c'est la conjonction d'une agressivité, disons, hein, extérieure et d'une potentialité intérieure qui peut faire le danger. De la même manière, le fameux Pearl Harbor informatique, ça ressemble un peu quand même à de la propagande. Hein. Mais on peut imaginer qu'une société en état de crise latente, hein, dans laquelle il y a tout ce qu'il faut, si vous voulez, une grange remplie de dynamite. Hein. On peut imaginer effectivement un facteur déclenché. C'est pas le Pearl Harbor, c'est pas l'action elle-même de l'individu qui va trouver le jackpot informatique dans la société, mais c'est la situation est mûre pour que un élément mineur déclenche une crise systémique. Voilà. Donc il y a ça, il y a aussi quel est votre avis là-dessus? Finalement, j'ai l'impression qu'on a une vision qui est très analytique des choses, alors qu'il faudrait l'avoir systémique, globale.
Bah, je dirais que là, on essaye de commencer à l'avoir systémique au sens où l'avatar essaye de penser en termes de modélisation. Parce que la SSI n'est pas une technique, une science nature, en un sens. C'est-à-dire que la modélisation n'est pas utilisée comme dans des tas, la simulation comme dans des tas d'autres disciplines comme elle pourrait l'être. Donc il y a encore beaucoup de travail, mais ce n'est pas évident qu'il soit simple. Et ce n'est pas évident qu'on arrive à tout faire. Par contre, je voudrais tout à fait sur les aspects intoxication, propagande. Bon, il est très difficile d'en cerner la part exacte. Donc c'est à prendre avec des pincettes. C'est pour ça que je disais qu'il n'était pas interdit de regarder ce que faisaient les autres. Mais en essayant d'être prudent. Et ce qui implique aussi faire soi-même ses expériences pour vérifier justement un certain nombre de choses. Et ça, c'est pas facile non plus. Et alors, sur la faisabilité d'actions de type cyberterrorisme, j'aurais tendance à penser que les systèmes, globalement, ont une assez grande résilience. Je veux dire par là que, bon, on dit c'est facile, il n'y a qu'à. Et en réalité, ça souvent s'abute sur une bêtise de dernière minute, sur une mauvaise synchronisation de quelque chose, des cracks. On n'a pas passé une porte. Et c'est ça qui explique sans doute que pas mal de choses ne se font pas. C'est ce que je résumais un peu brutalement par aléa et constante de temps. Mais il n'en reste pas moins que je pense que c'est un potentiel tout à fait dévastateur si c'est soutenu justement par des gens qui sont renseignés et outillés. Et alors où c'est un peu ennuyeux, c'est que les systèmes qui peuvent servir de vecteurs sont fournis évidemment par certaines nations. Ou modifié par d'autres. Il suffit de penser au bug de l'an 2000 et à tous les travaux qui ont été sous-traités en Inde, aux Philippines, je sais où. Mais je n'ai pas de réponse absolue du tout à votre question. Je crois que c'est actuellement un problème qui est posé de point.
Il y a aussi quelque chose qui me frappe, c'est que dans toutes ces présentations sur les problèmes de sécurité, à aucun moment, ça du fait que ces documents sont tirés de. Des documents américains. Hein. À aucun moment, on ne parle de l'action sur les circuits de décision, et en particulier sur les dirigeants, ceux qui prennent les décisions.
Oui, mais justement, c'est pour moi l'importance de la couche psychologique. Et c'est pour ça qu'il est important d'inclure dans la modélisation. Parce que justement, la pénétration d'un système ou la mise hors service d'un système, ça peut passer tout simplement par amener ses dirigeants à prendre de mauvaises décisions. Et ça doit rentrer dans la modélisation globale pour être bien compris.
Alors, donner une vision de la situation qui fait qu'ils prennent de mauvaises décisions.
C'est ça. Il y a eu des choses de fait, hein, pour revenir à l'intervention d'hier soir, les gens de chez Arduino réfléchissent pas mal aux aspects psychologiques et économiques de cette action.
Moi, c'est juste une remarque par rapport à l'approche de sécurisation en se plaçant du point de vue de l'attaquant et en recherchant ses cibles, les moyens privilégiés qu'il a. Donc c'est parfois une vision technique de quelqu'un qui fait des tests d'intrusion. Et je me demande quel peut être le degré d'efficacité de cette approche par rapport à une approche plus classique, méthodologique, etc. Dans la mesure où on constate que c'est quelque chose qui dépend énormément des compétences, du savoir-faire, de la vision des gens qui vont la mettre en œuvre. Quand on conduit un test d'intrusion sur un système dans lequel il y a deux sociétés différentes, en général, elles arrivent à des résultats complètement différents. Donc ça peut être soit parce qu'il n'avait pas les compétences, par exemple Donald Duck qui ne sait pas casser le digicode, mais quelqu'un d'autre peut savoir le faire, soit parce qu'on a écarté des pistes, parce qu'on pensait ne pas pouvoir les pirater, alors qu'en fait elles sont piratables, et tout ce genre de choses. Et je me demande si finalement une telle approche peut vraiment, on va dire, efficacement conduire à une prise en compte suffisamment large de tous les risques qu'on a, donc tant en matière de savoir-faire que de connaissance de l'état de l'art et plus largement de compétences et de visibilité.
En réalité, il ne faut pas la voir comme approche unique. En fait, c'est une approche qui est complémentaire de celle qui existe. Et le drame, c'est qu'actuellement, les approches existantes ont un côté magino un peu trop marqué parfois. Oui.
Pour reprendre une analogie, la progression historique des différentes méthodologies de conflit, par rapport à l'eau nucléaire, a été introduite la notion de dissuasion.
Oui.
Est-ce que dans la guerre de l'information, la dissuasion a sa place, hein? Est-ce que c'est une voie?
C'est-à-dire
pas forcément acquérir la même capacité de l'adversaire, mais avoir des moyens capables de dissuader.
Franchement, j'en sais rien. On peut envisager le problème de deux façons différentes. Soit un État majeur, qui sont les États-Unis, qui va menacer un autre État de lui mettre par terre son économie, discrètement menacer certaines sanctions. Ou on peut imaginer un acteur mineur qui, au contraire, va jouer l'attaque dans un cadre asymétrique. Là, je crois que c'est assez nouveau. Je n'ai pas de réponse.
Ça a déjà commencé, en fait. Entre Taïwan, ça a déjà commencé, par exemple. En Asie, il y a certains pays qui ont déjà annoncé publiquement être prêts en cas d'intrusion massive liée à ces technologies. Et en fait, il y a eu des annonces qui ont été menées de front quasiment en même temps, du côté de la Chine, autour, qu'on peut vraiment estimer être des annonces de type dissuasion. C'est-à-dire, si vous venez chez nous, vous quittez en l'air de vos entreprises, etc., on espère faire la même chose en retour. Peut-être que la doctrine va se mettre en place d'elle-même naturellement, et peut-être que ça a déjà commencé dans certains endroits.
Oui, je crois que c'est de la situation, ça. Hein. Enfin, on dit aux échecs qu'une menace est plus forte que son exécution, mais en ce c'est le cas là. Hein. Oui.
C'est pas tant que vous contestez la faisabilité de ce schéma, mais ça fait quand même 8 ans maintenant. De guerre par la propre compagnie. Or, en 2001, ces travaux sur le droit à 5 heures dans la zone qui ont été exposés par la situation politique mondiale. Les groupes terroristes qui sont plus intéressés par l'uranium, le droit de logique, ou chimique, que par du virus ou du gaz informatique, d'une part. Ensuite, c'est une situation qui est assez fortement liée au contexte américain, notamment au niveau des réseaux. Au niveau des réseaux, on s'est aperçu que pas mal de la première période. Il y a pas mal d'infos non sensibles, mais importantes transitées par Internet, typiquement les commandes de matériel, les mouvements de groupe internes, la paye. C'est peut-être après ça qu'ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qui se passait si un jour on balançait les virus au moment d'une crise, peut-être qu'il y a des réseaux-là de l'arrière. C'est pas forcément applicable. pas les pays tiers mondes, ça concerne donc des nations industrialisées, riches. Et dans la liste des pays qui en 95 déjà étaient montrés du doigt comme étant potentiellement des agresseurs, vous croyez qu'elle est la France. Donc les Américains considéraient la France, le côté d'Israël, de la Chine, de l'océan et du Brésil, comme des ennemis potentiels dans le contexte de guerre de l'ennemi. Donc c'est aussi une façon, à part de vue, le fait que c'est une façon de dire voilà ce qu'on va vous faire à vous, sous couvert de les méchants partout qu'on va éliminer à cause des Russes. Alors en fait, un des inconvénients, c'est plus efficace à ce niveau.
Complètement, concernant le World Trade Center, il est vrai que c'est une action physique. Par contre, c'est intéressant si on raisonne en termes de simulation. Regardez donc le choc que ça fait dans le monde financier, économique, etc. Donc si vous représentez tout ça par un reste là, puis vous regardez comment ça se propage, ça...
Oui,
d'un
côté,
Non, mais il importe de minimiser, je pense, le centre de la croix. C'est effectivement le cœur du métier, l'action de moyens informatiques contre des cibles informatiques, mais je dirais que c'est un facilitateur. Il ne faut pas oublier qu'en principe, le but du jeu, c'est un but physique. Il s'agit d'étrangler l'adversaire, on lui dit qu'est-ce qu'il a. Et ce n'est pas informatique. L'informatique, ça va aider, ce point. Alors, la deuxième question... Oui, non, mais c'est complètement intemporel, là. C'est complètement intemporel, là.
On a un schéma qui est plus haut. Le fait qu'il est plus par les moyens utilisés, les autres. Au niveau de l'importance, sans l'équivalent, plus ou moins, c'est ça. Il y a tout aussi le contexte qui fait que la nation moderne, le coût humain en termes militaires, ainsi qu'à humaine, est plus fort qu'avant. Et que l'infoguerre, dans la vie de certaines personnes, notamment les Américains, c'est une façon de minimiser des cartes humaines en disant on va d'abord tout travailler de l'information. Déjà c'est plutôt c'est de dire que le bar de civils pays des noms bien classiques et bien.
Non, mais il y a l'aspect consommation intérieure non indéniable. C'est-à-dire que d'une part, c'est une façon d'avoir des budgets, parce que fin de la guerre froide, fin du syndrome nucléaire, encore que ça peut revenir, on ne sait jamais. Mais bon, il faut trouver un nouveau cheval de bataille. Enfin, ça y est, c'est trouvé. Je vous rappelle aussi une citation de Dibiki, bon, je ne me rappelle plus exactement ce que vous le formulez, mais il expliquait que si les États-Unis voulaient dominer leurs adversaires, il fallait qu'ils les emmènent sur le même sentier qu'eux et derrière eux. Faire en sorte qu'ils nous ressemblent. Ben, c'est exactement ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils inondent le monde de tout un tas de papiers, de choses visant à nous emmener sur la même voie, sachant que comme ils ont une longueur d'avance, c'est gagné. C'est pour ça qu'il n'est pas interdit de regarder comment ils font, mais il n'est pas non plus assez interdit de chercher sa voie sur le côté si c'est possible.
On va prendre une dernière question.
De comprendre le problème globalement, une approche en couche du monde, on peut imaginer toutes sortes de représentations, mais de représentations qui nous autorisent à voir le problème globalement.
Bien, je vous laisse.